sur Uber maintenant.
Voilà. Alors, puisque vous avez pu effectuer votre recherche à Stanford, il y a Lance qui vous demande est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre la recherche aux États-Unis et celle en France ? Et est-ce que le statut de chercheur CNRS est comparable au statut de chercheur là-bas ?
Alors, comparé à les chercheurs CNRS, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas, pas d'organisme comme le CNRS aux États-Unis. Donc, la NSF n'emploie pas de chercheurs, à ma connaissance. C'est différent. Quoi. Donc, on a la chance, on est moins bien payé, voilà, on va dire, on est moins bien payé et on a beaucoup plus de liberté. La recherche aux États-Unis, telle que je l'aperçois, elle est très mandarinale, quoi, donc organisée autour de quelques professeurs. Il y a peu de. Un autre aspect, c'est que les chercheurs CNRS sont des fonctionnaires. Hein, donc, aux États-Unis, il y a très très peu de chercheurs avec une tenure hein, qui ne sont pas embauchés à vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et, je vois beaucoup avec des post-doctorants et des contractuels. C'est mon ressenti personnel. Hein. Je n'ai pas les statistiques que j'ai. Hein. C'est mon expérience personnelle. Et voilà. Mais, par contre, ce qui est objectif, c'est qu'il n'y a pas de CNRS aux États-Unis et il n'y a pas de chercheurs fonctionnaires permanents recrutés après 2 ans de post-doc. Hein.
Ok. Une autre question de Lance. Est-ce que le CNRS couvre toutes les thématiques en informatique ? Par exemple, système distribué, compilation, électronique.
Oui.
Et du coup, parmi ces thématiques, est-ce que vous pouvez nous dire celles qui sont très représentées et celles qui sont peu représentées ?
D'accord. Donc ma réponse est oui, ça couvre tout. Après, alors là, j'ai des stats, mais c'est dans un autre fichier. Qui cartographie, donc c'est un des projets de cette année pour le rapport de conjoncture, de cartographier très précisément la recherche en fonction des domaines de recherche. Donc c'est sûr que, alors pour donner les grandes tendances, historiquement, les candidats, le CNRS recrute plutôt des théoriciens. Mais c'est l'histoire, c'est pas. C'est pas la réalité aujourd'hui, puisque c'est pas du tout ce que montrent les thèmes prioritaires. Et donc, c'est sûr que les théoriciens sont plus représentés au CNRS que dans l'ensemble de la discipline. Par exemple, en algorithmique et combinatoire ou en théorie de la programmation.
Je vais poser une question qui n'est pas sur le pad. Pour l'informaticien, c'est quoi la différence entre une réelle et CNRS ?
Moi, je pense qu'il y a très peu de différence. Alors, c'est une question qu'on pose aussi. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, le métier est le même. Les deux, les carrières sont les mêmes, on va dire. Donc la différence, elle est liée à la structure en UMR ou en équipe projet. Bon, alors là, ce qui fait que... Alors ça, voilà, je vais dire mon opinion. Hein, c'est pas autocarrière. Mon opinion, c'est qu'il y a un avantage d'être au CNRS, c'est que ça couvre tout le territoire. Donc il y a les UMR qui couvrent plus large et donc qui permettent, par exemple, de faire plus facilement des mutations, on va dire. Et en revanche, à l'INRIA, il y a une structure qui est moins pyramidale, c'est un plus petit organisme de recherche, donc c'est beaucoup plus facile. Tous les chercheurs à l'INRIA, ils auront vu au moins une fois leur directeur d'unité, le directeur de centre, et le PDG très probablement aussi. Le PDG du CNRS, moi, avant d'être au comité national, je ne l'avais jamais vu. Hein. Donc voilà. Et le directeur scientifique, je l'ai vu de loin. Donc. Ça a des avantages et inconvénients qui sont liés à la taille de l'organisme. Bon, le CNRS c'est aussi un organisme pluridisciplinaire, bon, je ne sais pas si c'est vraiment c'est ce qui met, que le CNRS met en avant pour montrer sa spécificité aussi. Hein, mais...
Alors vous avez dit qu'il fallait un doctorat ou un équivalent pour postuler un poste au CNRS. Mais c'est quoi du coup l'équivalent au doctorat que...
Ben, c'est un grand, je n'ai pas parlé des candidatures étrangères, mais évidemment on accepte et on accueille volontiers des candidatures étrangères. Et donc ça concerne les étrangers. Alors, si la question est-ce que des acquis industriels ou professionnels pourraient remplacer le doctorat, alors, en théorie, ce n'est pas exclu, puisqu'il y a une instance d'équivalence. Donc, il y a des dossiers qui doivent être déposés à l'instance d'équivalence qui examine suivant des critères. Je ne vous ai jamais présenté, je ne pourrais pas les énoncer, hein, si on valide, par exemple, les années d'expérience de la recherche comme l'équivalent d'un doctorat. Donc, ce n'est pas formellement une obligation, mais il faut passer par l'instance d'équivalence. Et jusqu'ici, bon, en pratique, disons, tous les candidats qu'on a examinés avaient un doctorat. Ou un PhD, enfin voilà, un doctorat dans un autre pays.
Du coup, une question qui vient de Lille. Comment sont gérés le cas où plusieurs publications sont jointes au dossier de recrutement, et notamment les publications qui sont faites à plusieurs, et le cas particulier on n'est pas noté comme étant premier auteur, indépendamment de l'ordre alphabétique ou non?
Il y a deux questions, c'est vrai. Plusieurs dossiers, enfin, plusieurs sont devant trois publications. Donc, on espère qu'ils joignent trois publications, que chacun verra, que trois rapporteurs, qu'un rapporteur chimise chacune des publications. Alors, la question des auteurs. Bon, alors là, c'est les pratiques diffèrent suivant la nature du travail. Il faut tenir compte des spécificités du domaine de recherche. Par exemple, en bioinformatique, ça va être très différent de ce qui se passe en réseau ou en algorithmique. Donc, il faut, je ne peux pas répondre de manière uniforme. Donc évidemment, la part du candidat, on essaye d'évaluer quelle est la part du candidat, la contribution du candidat à la publication qu'on regarde. Et ça, souvent, on va le faire aussi via des questions au cours de l'audition. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens d'évaluer l'ordre des auteurs, effectivement, qui dépend, les pratiques dépendent des communautés, on les connaît, donc on peut évaluer si c'est un auteur important ou pas. Et après, quand il y a beaucoup d'auteurs à égalité, ben, on va cuisiner le candidat sur sa publication pour voir s'il la maîtrise bien.
Parlez-nous justement de l'audition, parce que c'est une question que les gens doivent se poser, comment ça se passe, quel est le poids de l'audition?
Ah, je pense qu'il est... Il est plus important qu'il devrait, parce que c'est-à-dire qu'on est, mais c'est pareil pour les maîtres de conférence, quand on entend le candidat, forcément on se forge, on a une idée après, enfin c'est humain, quoi. On peut être impressionné favorablement ou défavorablement par une audition, et finalement ça joue de manière subjective, disons, indépendamment de la qualité du dossier. Bon, maintenant on essaye quand même de contrer ce biais, quoi, des gens qui savent s'exprimer et de ceux qui ne sont pas... qui sont moins brillants. Donc c'est un exercice qui est difficile quand même, qui est très difficile parce qu'il y a un temps très court pour le candidat. C'est un truc qui doit prendre extrêmement de temps en fait à préparer, les 15 minutes ou 20 minutes ou 25 minutes d'exposé selon les années. Qu'on doit résumer 6 ans de recherche et convaincre un jury, c'est très difficile. Voilà. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à faire passer quelque chose au jury, de ne pas être trop ambitieux. Le défaut, c'est celui de tous les gens, de tous les exposés qu'on entend tous. Hein, c'est-à-dire qu'on suppose que l'auditoire connaît parfaitement le sujet, puis rentre trop profondément, et puis là, on comprend. Oui, bah, finalement, le jury ne comprend rien, et bon, il n'y a rien tiré. Alors que si on arrive à montrer que là, il y a vraiment un truc intéressant, et on aime bien la science, voilà. Donc on aime bien, quand même, le jury aime bien avoir un résultat, un truc qu'il comprend et qu'il arrive à voir que c'est quelque chose d'intéressant, de nouveau. Et puis on en ressort moins bête aussi, des jurys, quand on a appris des choses. Donc on aime bien ça. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Pensez-vous que la... Donc une question de Lyon Sud, est-ce que vous pensez que la séparation entre d'un côté chercheur et enseignant-chercheur elle bénéficie au système de la recherche en France?
Ah, là, c'est une question personnelle. Hein. Je ne réponds pas en tant que membre du comité. Moi, je me suis toujours plaidé, et au sein de la CIF y compris, pour qu'il n'y ait pas de frontières rigides entre les deux. C'est-à-dire que je crois personnellement que c'est une bonne chose qu'il y ait, de pouvoir, à un certain moment de sa carrière, se consacrer entièrement à la recherche. Donc de laisser cette possibilité de toute façon. Et donc là, effectivement, je crois qu'on a un atout par rapport à d'autres pays. Mais je crois aussi que ça n'est que très rare que notre travail justifie d'être en toute sa vie chercheur à plein temps. Voilà. Donc je trouve qu'il faut faire un signe de bien personnel, qu'il y a des moments où il faut faire l'enseignement, des moments où il faut être libéré de l'enseignement. Voilà. Hein, je suis aussi parti 2 ans à Tokyo pendant que j'étais enseignant. Donc j'ai oublié de mentionner ça dans mon CV. Mais donc, grâce notamment au CNU qui m'a donné un CRCT d'un an, par une délégation d'un an de transition, je vais partir 2 ans à Tokyo, et c'était bien, j'ai fait de la recherche à plein temps pendant 2 ans, alors que j'étais ancien chercheur pour. Et ça, on a besoin tous, et on a besoin aussi, je crois, même si les chercheurs ne l'avouent pas, ils ne sont pas toujours au top de leur production, et tant qu'il faut avoir la possibilité de faire autre chose.
Et ensuite, donc une question qui est aussi valable pour une candidature à un poste de maître de conférence. Est-ce que c'est rédhibitoire d'avoir fait 1 ou 2 années d'enseignement dans le secondaire avant de postuler ?
Alors moi, je vais répondre d'abord. Enfin, moi-même, j'ai fait 4 années d'enseignement dans le secondaire avant de postuler. Donc voilà, mais c'était il y a très longtemps. Hein. J'ai postulé en 89, donc ça fait, voilà. J'ai fait 4 ans d'enseignement avant de postuler. Donc c'est pas rédhibitoire, mais ce qui est embêtant, c'est que là, vous voyez qu'il y a les années d'expérience de la recherche, donc l'enseignement secondaire, on ne va pas en tenir compte dans ces années d'expérience de la recherche, donc c'est pas un obstacle. Et c'est pour ça que je formule ça aussi comme ça, parce que je me sens concerné. Mais évidemment, il faut pas que ça nuise à la recherche, c'est-à-dire qu'une interruption de la recherche, c'est difficile de reprendre quand on a interrompu complètement pendant 4 ans. Donc voilà, il faut y arriver.
Ouais, c'est la même chose pour candidater sur un poste de maître de conférence. Une expérience d'enseignement, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Le tout, c'est de savoir le valoriser et montrer en quoi ça nous arme pour la carrière d'enseignant-chercheur. Mais ça ne peut pas se substituer à ce qu'on demande à l'enseignant-chercheur en informatique à l'université. Je veux juste profiter justement d'avoir la parole pour parler un petit peu des auditions aussi, puisque le processus de concours pour maître de conférence, il se fait aussi en 2 parties, avec un dossier et une audition. Et là, de la même manière, il y a un temps très court pour présenter son dossier, où là, il faudra, dans ce laps de temps court, parler à la fois de l'enseignement de la recherche. Et un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est sur l'importance de parler de son projet d'intégration dans l'environnement qu'on souhaite rejoindre, aussi bien du point de vue de l'enseignement que de la recherche. Parce que être un très bon enseignant et un très bon chercheur, c'est super, mais on candidate sur un poste où on peut potentiellement rester toute sa carrière au sein d'une équipe. Et donc c'est indispensable de rencontrer les gens, ou tout au moins de se documenter sur le lieu où on candidate et de montrer dans son audition comment on va s'intégrer à cet environnement-là.
Ok.
Donc Hubert, une question pour vous. Est-ce que vous savez si ceux qui sont recrutés au CNRS ont été plutôt encadrés par des chercheurs ou plutôt par des enseignants-chercheurs ?
Je ne peux pas répondre, non. Mais je pense que c'est plutôt par les enseignants-chercheurs, parce que c'est la majorité des encadrants en France. Donc, voilà. J'ai pas observé, on observe un biais dans le recrutement des chercheurs. Enfin, c'est pas une statistique, mais je note que les personnes qu'on recrute sont souvent des enfants d'enseignants. Okay. C'est plutôt. j'ai pas de statistiques. Par contre, encore. Le cas parenthèse, non, je crois pas qu'il y a de biais de ce côté-là.
Et est-ce que tout à l'heure vous avez parlé de. Historiquement, il y avait un biais pour les matières plus théoriques. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a des thèmes prioritaires qui nous incitent fortement à recruter des chercheurs qui couvrent des domaines plus expérimentaux.
Vous avez dit que vous n'en teniez pas forcément compte.
On n'en tenait pas forcément compte, parce que c'est la qualité du dossier qui est importante, mais On essaye, c'est un des critères quand même. Donc on essaye d'équilibrer quand même entre recherche expérimentale et recherche théorique. Et donc je pense que dans les deux dernières années, les trois dernières années, les recrutements sont beaucoup plus équilibrés qu'ils m'ont été dans le passé. Et donc moi j'encourage, j'ai pas pu passer un transparent où je mettais les statistiques de candidats sur des thèmes prioritaires, et j'encourage ceux qui sont sur un des thèmes prioritaires de se porter candidat, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances que d'être recrutés, parce qu'il y a peu de candidats dans certains, sur certains thèmes. Et donc par exemple on évalue les productions logicielles et expérimentales, hein, donc c'est comme des publications.
Alors c'était une autre question.
Ouais voilà, c'est ça. Ben du coup c'est une question de Lille qui demandait est-ce que les publications sont regardées. Est-ce que seules les publications sont regardées? Parce que visiblement la personne a développé des prototypes de logiciels. Est-ce que cela devrait apparaître dans son dossier? Donc du coup est-ce que.
Ah c'est indispensable.
On dirait
tout le sujet. La production logicielle, elle doit faire partie du dossier, c'est absolument essentiel, c'est un des gros défauts des dossiers qu'on a, c'est qu'ils ne parlent pas. Alors après, il y a un guide pour présenter et auto-évaluer, à l'INRIA aussi d'ailleurs, présenter et auto-évaluer sa production logicielle, mais il faut aller voir ce guide, présenter son logiciel suivant ces critères-là, parce que si vous dites bon, j'ai développé tel truc, tant de lignes, et voilà, point, nous ça ne dit strictement rien, on ne peut pas l'évaluer. Donc il faut d'abord qu'il soit. C'est préférable qu'on puisse y accéder, parce que s'ils sont accessibles, il y a un membre de la section qui est chargé de télécharger le logiciel et d'essayer de le tourner. Voilà. Et si, malheureusement, la plupart du temps, on n'arrive pas à le faire marcher. Donc, ou alors, on le fait marcher, mais il n'est pas documenté, donc c'est très dur. Bon, voilà, ça dépend. Hein, mais bien sûr, on essaye d'évaluer cet aspect-là, et c'est très important.
Alors sinon, une autre question de Lance. Quels sont les différents concours ouverts au CNRS quand il y en a plusieurs? Par exemple, est-ce que ça existe un ingénieur CNRS?
Alors, je n'ai pas du tout parlé de ce type de recrutement. Je ne suis pas compétent pour répondre, mais oui, bien sûr, ingénieur CNRS, ça représente, il y a plus de postes en fait pour les personnels d'appui à la recherche, comme on dit, que pour les chercheurs. Cette année, il y a 250 postes sur les chercheurs ouverts au concours, alors qu'il y en a, je crois, 320 pour les personnels d'appui à la recherche. Donc oui, bien sûr, mais là, je ne peux pas parler de ces. Je ne suis pas compétent pour répondre aux critères et au fonctionnement des jurys de recrutement. C'est pas vous qui l'examinez, en tout cas.
Une question de Valenciennes qui est c'est quoi les critères minimaux pour avoir une chance d'avoir un poste? Vous avez dit qu'il fallait au moins un an de postdoc.
Ouais.
Critères minimaux en termes de publication?
Je ne saurais pas répondre parce qu'il n'y a pas. Au moins trois publications. Bon, c'est sûr qu'il en faut. S'il n'y en a pas trois, déjà c'est mal parti, mais après tout dépend du contenu des publications. C'est, comme on les lit, on les regarde, on les évalue, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dedans. Moi je dirais qu'il n'y a pas de plancher, ça dépend du contenu. Voilà, après on peut essayer de faire des statistiques sur les personnes qui sont recrutées, mais ça arrive qu'on recrute quelqu'un qui n'a que 3 ou 4 publications, ça se peut. Voilà. Il y en a aussi comme on voit, hein, mais c'est comme ça dépend aussi des domaines et de la qualité des supports.
On a tous qui aimeraient rebondir sur l'histoire du logiciel, qui demande du coup que plutôt que ce soit le logiciel qui soit audité, est-ce qu'on peut faire une vidéo de son utilisation?
Oui, alors c'est aussi une possibilité. Il n'y a pas que. Bon, les logiciels, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup, par exemple, quand on fait de l'analyse de données, par exemple, okay, les données expérimentales, ce n'est pas forcément seulement le logiciel, c'est aussi les données. Voilà, donc si on n'a pas accès aux données, on ne va pas pouvoir de toute façon tester le logiciel. Donc il y a les données, voilà. Les vidéos, ça peut aussi être très utile parce que quelquefois, les logiciels ne sont pas open source. Parce que, par exemple, ils ont été développés en collaboration dans un contrat industriel, etc., qui a une propriété intellectuelle qui n'est pas. Enfin voilà, on ne peut pas avoir les sources. Donc, Dans ce cas-là, évidemment, ce qui est bien, que soit on puisse l'exécuter, soit on ne peut pas aller même pas l'exécuter, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir une vidéo qu'avec du tout. Hein.
Ben, par rapport aux données, du coup, vous avez dit, c'est les données d'utilisation du logiciel, ou par exemple, c'est ce qu'on pourrait imaginer que, je sais pas, quelqu'un qui aurait fait, ben, par exemple, un... En partir du sujet informatique, mais il y a quelqu'un qui aurait fait une thèse en nucléaire, je sais qu'il manipule énormément de données.
Ouais.
Est-ce que ça, par exemple, il pourrait le faire valoir, le fait qu'il y ait des traces titanesques de données
Ouais, tout ce qui est raisonnable, on va essayer de le prendre en compte.
Donc, Yannis qui vous demande des conseils pour la rédaction d'un projet de recherche ou d'un projet de recherche ou d'un postdoc.
Conseil pour la rédaction d'un projet de recherche. Donc le projet de recherche, déjà, là je vais rejoindre ce que disait Julien, qui se fait dans une, en visant une équipe d'accueil. Donc le projet de recherche, il doit s'articuler avec l'équipe d'accueil. Voilà. Donc, le projet de recherche de l'équipe d'accueil. Il doit s'articuler aussi avec les recherches passées, s'appuyer sur les recherches passées. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Évidemment, il doit être innovant. Bon, ça, le mieux, c'est aussi de ce qu'on apprécie. Voilà, si on a des très bons projets de recherche, c'est ceux où ils donnent des objectifs court terme, des objectifs moyen terme, des objectifs long terme. Hein. Ça, c'est aussi une structuration qui permet d'avoir une meilleure vision. On peut dire, bon, l'objectif court terme, on voit que là, c'est la suite de sa thèse, il va y arriver. Objectif long terme, bon, bah, très prospectif, peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais bon, il a une vision long terme. Donc ça, c'est une façon peut-être de structurer.